Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Cela va faire 5 ans que la consommation du cannabis à des fins récréatives est devenue légale pour les adultes au Canada. Cette réglementation pourrait avoir contribué à une hausse de la consommation canadienne de cannabis. Depuis 10 ans, la consommation de cannabis est en hausse au pays. Elle voisinait 10% en 2013 pour des Canadiens âgés de 15 ans et plus dans la plupart des provinces. Et en 2021, elle avait doublé, environ 20%, soit un Canadien sur 5. Évidemment, les usages changent selon l'âge, mais aussi les consommateurs occasionnels les plus réguliers. Les jeunes Québécois seraient pourtant moins nombreux qu'avant à tirer sur un petit joint. De nouveaux produits et le vapotage, le Vaxpen, pourraient cependant les séduire, entraînant des conséquences sur leur santé, en raison souvent du fort taux de THC. Ça, c'est le tétrahydrocannabinol. C'est l'un des composants du cannabis. Bien sûr, la pandémie brouille un peu ce portrait. Alors, cette drogue psychotrope gagnerait-elle plus de nouveaux clients et de jeunes depuis 5 ans? Nous vous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous intéressons à l'usage du cannabis et des impacts de la législation de 2018. Quels sont les effets de la pandémie aussi et ce changement sur la consommation canadienne et québécoise, particulièrement chez les jeunes? Pour en parler, je suis en compagnie de Laurence Darcy, chargée de projet, spécialiste en dépendance à l'Institut universitaire sur les dépendances et chargée de cours au certificat d'intervention en dépendance à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de la conseillère scientifique Marie-Ève Levasseur, coordinatrice de l'équipe scientifique sur le cannabis à l'Université Produits et Substances Psychoactives de l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Il y a 5 ans, le gouvernement canadien a choisi de rendre légale la consommation récréative du cannabis chez les adultes. Sa motivation était de proposer à la population des produits certifiés de qualité tout en luttant contre le marché noir du cannabis. A-t-il réussi son pari? Nous allons explorer l'évolution de cet usage chez les plus jeunes. Selon l'enquête canadienne sur l'alcool et les drogues de 2019, un Canadien sur 5 ou 20,7 des Canadiens de 15 ans et plus déclaraient avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête. Chez les jeunes, c'est presque 1 sur 2, 48,4% des jeunes des établissements post-secondaires qui avouaient l'avoir fait. Et presque un jeune Canadien sur 5 à l'école secondaire qui aurait essayé ou qui s'adonnerait à cet usage. Ça semble beaucoup. Est-ce que ça l'est, Madame Darcy?
Ben, c'est sûr que si on le compare à l'alcool, on voit que ces statistiques-là sont même un peu plus élevées quand on parle d'essais. Puis ça fait partie un peu de l'adolescence, d'essayer des choses, d'expérimenter, de vouloir justement vivre des expériences en dehors du cadre familial. Donc, c'est pas étonnant que les jeunes consomment des substances psychoactives dont le cannabis fait partie, là.
Oui. Lorsqu'on parle de consommation du cannabis, quelle est la tendance, Madame Levasseur, et plus particulièrement aussi auprès des jeunes?
Oui, bien, les enquêtes qu'on a, particulièrement au Québec, là, pour nous informer sur la consommation de cannabis, on a l'enquête québécoise sur le cannabis, qui est notre enquête la plus complète là, pour caractériser la consommation dans tous les groupes d'âge à partir de 15 ans. Puis, ce qu'on y voit, par contre, c'est que chez les mineurs, donc chez les 15-17 ans, dans le cadre de cette enquête-là, c'est que ça diminue depuis les premiers cycles de l'enquête. Donc, depuis 2018, on est passé de 22% de jeunes ayant essayé le cannabis, de jeunes de 15 à 17 ans, pardon, ayant consommé du cannabis dans les 12 mois précédents, puis on est autour de 19% maintenant. C'est une tendance qu'on a vue, qu'on voit également dans l'État de Jess, l'enquête sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire. Le cycle 2019 nous démontrait qu'on était autour de 17% qui ont consommé dans l'année précédente, ce qui correspond à vos chiffres à peu près là, au niveau canadien. Mais si on compare avec le cycle des années 2000, on est autour de 40%. Donc, on est quand même dans une tendance à la diminution de la consommation de cannabis pour les plus jeunes. L'état de geste, on est chez les 12-17 au secondaire. Donc, ça, c'est le portrait un petit peu plus pour les mineurs, les plus jeunes. En ce qui concerne nos plus grands consommateurs, en général, là, on est en 18 et 34 ans. C'est eux qui consomment le plus, donc les jeunes adultes. Mais la tendance, depuis en tout cas la légalisation dans les derniers cycles, est quand même à la stabilité. On n'a pas de variation très significative depuis 2018. Par contre, pour nos 25 ans et plus, donc dans tous les groupes d'âge après 25 ans et plus, là, on observe plutôt une augmentation depuis 2018.
Oui. Comment on explique cette tendance à la baisse, Madame Levasseur?
Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. On n'a pas toutes les réponses, bien sûr, mais c'est sûr que ça peut être une panoplie de raisons qui amènent les jeunes à peut-être moins tester cette substance-là plutôt que d'autres. L'acceptabilité sociale aussi a un petit peu augmenté depuis, encore selon des données de l'enquête québécoise sur le cannabis, là, un petit peu augmenté depuis les premiers cycles de l'enquête. Donc, est-ce que la légalisation a pu jouer un petit peu sur la vision de l'interdit autour de la substance? Ça peut être une piste d'explication aussi, mais j'ai pas toutes
les réponses. Madame Darcy, est-ce que le fait que ça soit maintenant légalisé, c'est moins intéressant?
Mais je pense que je suis d'accord avec Madame Levasseur que d'enlever l'interdit rend ça peut-être un peu moins attirant. Il pourrait aussi avoir une explication que les réseaux sociaux ou l'utilisation d'Internet auraient remplacé un peu cette fonction-là de se détacher du noyau familial pour aller justement être en pair puis vivre des expériences, à définir son identité. Fait qu'il y a des gens qui font cette hypothèse-là. Il y a d'autres personnes qui disent, mais on est tellement meilleur au niveau de la prévention maintenant que c'est
oui,
ça, c'est
oui.
nos activités de prévention qui font en sorte que ces chiffres-là diminuent. C'est difficile à dire. Puis d'après moi, c'est multifactoriel, comme Mme Levasseur l'a dit. Donc, on ne peut pas là, mettre le doigt sur une chose en particulier. Faut regarder l'ensemble là, des adolescents. Puis c'est sûr que quand on regarde ces statistiques-là, on peut se dire « Ah, c'est encourageant », mais c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui sont les plus à risque, t'sais, les personnes qui ont une consommation à risque ou les personnes qui développent une problématique de dépendance. Puis même si ces tendances-là sont à la baisse, bien, il reste qu'on a quand même toujours notre clientèle qui consomment de manière problématique, il ne faut pas les oublier.
Oui, tout à fait. Les règles pour la législation sont différentes aussi selon les provinces, pour l'âge minimum notamment, et jusqu'au municipal où on pourrait voir des changements, Mme Darcy.
En fait, le Canada vient faire un encadrement légal entourant la possession, le partage ou le fait d'acheter ou de distribuer le cannabis. Donc, le Canada a mis un ensemble de règles, puis chaque province est venue davantage préciser ces règles-là. Je vous donne un exemple. Le Canada a dit aux provinces l'âge minimum pour acheter le cannabis, c'est 18 ans. Maintenant, si vous voulez être plus sévère que 18, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas être moins sévère. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, à 16 ans, mm-hmm. on rend ça légal. Donc, le Canada est venu vraiment venir mettre des balises. Puis après ça, bien, les provinces ont fait des choix. Entre autres, au Québec, dans les choix qui ont été faits, bien, l'âge de 21 ans minimum pour posséder, acheter puis accéder à la SQDC. Au Québec aussi, on a mis un interdit de possession dans des lieux publics accueillant majoritairement des jeunes de moins de 21 ans. Mm-hmm. On a aussi statué sur les formes qu'on autorisait en vente à la SQDC. Entre autres, on dit à la SQDC qu'elle n'a pas le droit de vendre des friandises, des bonbons, n'importe quoi qui pourrait être attirant pour des jeunes.
Des enfants, finalement.
Des enfants mm-hmm. ou des plus jeunes. On a aussi des emballages qui sont pas attrayants, là, qui sont pas colorés oui. et mm-hmm. tout ça. Alors que dans le marché noir, c'est quelque chose qu'on va voir. Entre autres, on en avait discuté juste un peu avant, mais la wax pen, qui est de plus mm-hmm. en plus populaire chez les jeunes, bien, va venir dans des emballages qui vont être attrayants, qui vont avoir des couleurs, qui vont avoir des logos, des personnages, des choses comme ça. Puis peut-être pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi la wax pen, au Québec, la wax pen, ça fait référence à une cigarette électronique avec un liquide qui est très concentré en THC. Donc, un liquide qui va être autour de 70 à 90 % de THC, qui va être souvent acheté sur le marché mm-hmm. noir et consommé oui. par les jeunes.
Oui, on va en parler. Les règles différentes aussi sont... L'usage varie en fait beaucoup, l'usage récréatif versus l'usage problématique. Il y a de l'expérimentation chez les jeunes. Il faut distinguer l'usage occasionnel ou de l'usage régulier, Madame Levasseur. Il faut pas tout mélanger.
Oui, effectivement. Donc, c'est certain qu'on a... L'usage le plus à risque, le plus problématique, ouais. C'est dès que c'est une fréquence beaucoup plus soutenue, tant dans le nombre de fois par semaine, jour-semaine, que dans le temps aussi, dans la durée, donc sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc ça, c'est sûr que c'est pas les mêmes risques, et puis c'est pas les mêmes proportions non plus qui consomment de manière à risque. Comme le disait Mme Darcy tout à l'heure, c'est vrai que c'est les populations les plus à risque qu'il faut qu'on continue de garder en tête pour la prévention puis dans les interventions. Mais si on veut remettre un petit peu en perspective, encore une fois, par exemple, avec nos jeunes du secondaire, l'ensemble des jeunes du secondaire qui ont consommé du cannabis, qui ont été interrogés dans le cycle 2019 de l'État de Jazz, par exemple, ben c'est 83% qui n'ont pas du tout consommé. Ça nous donne une idée des ordres de grandeur. 12% qui l'ont fait à une faible fréquence, puis seulement 4,5% qui l'ont fait de manière à une fréquence qu'on dit élevée, qui, elle, là, est peut-être plus problématique, là, les fins de semaine, une, deux fois par semaine, jusqu'à tous les jours. Donc, dans ces 12%-là de faible fréquence, il y a des gens qui sont là, des jeunes qui ont juste essayé une fois ou une fois par mois. Donc, il y a effectivement un gradient des manières de consommer d'occasionnel à quotidien. Les risques étant plus élevés, plus on consomme de manière régulière et quotidienne.
Oui, j'aimerais ça ajouter un petit quelque chose. C'est tout à fait vrai. Tu sais, on voit qu'au niveau de la fréquence, plus on augmente notre fréquence puis notre durée, bien, plus les risques en général sont grands. Chez les jeunes, par contre, il y a quelque chose de particulier, c'est que comme on est dans les premières expérimentations puis qu'on n'est pas trop au fait de nos limites puis qu'on pense pas tant que ça aux risques ou aux conséquences négatives, il peut y avoir des consommations qui sont très ponctuelles, mais qui vont devenir très problématiques parce que la personne, par exemple, utilise un véhicule alors qu'elle est intoxiquée puis fait un accident. Ou une personne va surconsommer puis va faire une surdose de cannabis, va se sentir vraiment pas bien, va se rendre à l'hôpital parce que là, elle a l'impression qu'elle est sûre qu'elle va mourir. Elle ne meurra pas, là, mais, elle ne sait pas, mais ça amène vraiment beaucoup d'anxiété. Fait que chez les jeunes, des fois, on va trouver, même avec des petites fréquences, des grosses conséquences parce qu'ils connaissent pas bien leurs limites puis ils réfléchissent pas beaucoup à avec qui je consomme, est-ce que je suis dans un endroit qui est en sécurité ou qui est adéquat ou tout ça. Fait qu'en prévention, en fait, on cible les deux. On essaie que les fréquences soient les plus basses possibles, mais on cible aussi c'est quoi les conséquences ou les prises de risque dans lesquelles les jeunes ils peuvent se mettre.
Oui, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui intéresse les jeunes? Comment ils le consomment? Qu'est-ce qui est populaire? Peut-être Mme Darcy.
Bien là, ces temps-ci, on voit beaucoup, on entend beaucoup parler de la wax pen, comme je disais, qui était la cigarette électronique qui est hautement concentrée en THC. Ça intéresse les jeunes, il y a un petit hype autour de ça ces temps-ci, mais est-ce que ça va rester, est-ce que ça va disparaître? C'est sûr que la wax pen, elle est interdite en vente au Québec. Fait que, tu sais, on parlait de l'attrait de l'interdit, donc possiblement qu'il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a tout un marketing entourant ces cigarettes-là. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, l'INSPQ a fait une super page sur son site web qui vient vraiment, tu sais, expliquer c'est quoi la différence entre le vapotage de nicotine, le vapotage de cannabis, puis donne vraiment beaucoup d'informations pointues là-dessus.
Oui, Mme Levasseur, justement, c'est quoi un petit peu les méthodes, les types de produits, puis les jeunes, là, on serait curieux aussi de savoir comment ils s'en procurent, vu que c'est 21 ans. Donc,
de bonnes questions. Pour ce qui est des méthodes de consommation les plus populaires, si on revient encore dans le grand ordre des choses, pour les jeunes comme pour les autres groupes d'âge, le mode fumé, donc le cannabis séché, demeure la méthode principale, celle qui est utilisée par le plus grand nombre d'usagers. La plupart, rappelons que les usagers utilisent souvent plus qu'une méthode de consommation, mais ça demeure la méthode la plus utilisée, donc même par les jeunes. Puis là, ben, dépendamment du groupe d'âge, là, ben, le vapotage a fait effectivement, comme le disait très bien Mme Darcy, une belle apparition, ben pas une belle en fait, là, mais une apparition sur la map des méthodes de consommation, là, vraiment en grande hausse pour l'utilisation de cette méthode-là, surtout chez les jeunes, mais dans les autres groupes d'âge aussi. La consommation dans un produit alimentaire, sous forme de boisson, puis sous forme de gouttes orales, là, qui sont comme les petites gouttes avec un petit doseur qu'on dépose sur la langue, sont aussi des méthodes qui ont vraiment vu une augmentation au fil des derniers cycles de l'enquête québécoise sur le cannabis. Au détriment du mode fumé, je pourrais dire. Donc, on a quand même au-dessus de 85% des usagers qui disent quand même fumer, mais c'est en baisse continue là, depuis la légalisation au profit de d'autres méthodes.
Madame Darcy.
Pour ce qui est des jeunes...
Allez-y. Non, je vous écoute.
Ben, vous me demandiez, vous aviez une seconde question aussi. Hein?
Oui, comment ils s'en procurent?
Comment ils s'en procurent? C'est une bonne question. On n'a pas les données encore suffisamment précises pour savoir exactement les dispositifs de vapotage spécifiquement ceux-là, où vous les procurez-vous. Les enquêtes sont pas tout à fait assez précises à l'heure actuelle. Par contre, on sait d'où ils s'approvisionnent en cannabis. Par exemple, les jeunes de 15 à 17 ans, ils s'approvisionneraient majoritairement auprès de membres de la famille, d'amis, de connaissances, à plus de 80%, auprès d'une trentaine de pourcents auprès de fournisseurs illégaux, et puis il y a les autres sources. Donc, ça nous donne une petite idée pour leur approvisionnement en cannabis. Pour ce qui est des outils de vapotage, des wax pens dont parlait Mme Darcy, ben là, on parle beaucoup des médias sociaux, des sites web, donc illégaux nécessairement, par les firmes, Interac, etc.
Madame Darcy.
Oui, ben des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir des cartes de crédit prépayées. Mm-hmm. Puis c'est avec ça qu'ils vont pouvoir payer par Internet, se faire venir ces produits-là. Je dirais qu'il y a quand même des jeunes qui vont se faire venir des produits de la Colombie-Britannique. Parce que, par exemple, pour commander en Ontario, il faut donner une adresse en Ontario. Alors qu'il y a certains dispensaires en Colombie-Britannique qui sont beaucoup moins... regardant sur l'adresse de livraison, disons. Mm-hmm. Fait qu'il y a des jeunes qui vont s'approvisionner comme ça, mais c'est rare que tous les jeunes vont aller sur Internet. En fait, ça va être souvent comme un jeune qui va aller sur Internet, qui va acheter pour en grande quantité, gang, puis pour toute la gang, puis va redistribuer après. Fait que on se trouve un peu avec un marché où est-ce qu'on a des distributeurs, entre guillemets, de jeunes qui vont après ça aller en donner aux autres. Donc, ça, c'est sûr qu'on n'a pas des données comme Mme Levasseur l'a dit, sur est-ce que c'est la méthode la plus répandue, de manière anecdotique. C'est ce que les intervenants sur le terrain nous rapportent, là, que c'est la façon de faire des jeunes habituellement pour s'approvisionner en wax pen.
Oui, j'aimerais qu'on ouvre la porte sur la pandémie. Quel effet a eu la pandémie sur la consommation générale, peut-être, et celle plus particulièrement des jeunes, peut-être, Mme Darcy?
Bien, c'est sûr que la pandémie, tu sais, si on regarde, je pense que, Mme Levasseur va pouvoir le plus le dire avec les chiffres qui ont été obtenus, mais on a remarqué en général une augmentation de la consommation. Tu sais, les gens étaient chez eux, ne savaient pas quoi faire, puis la consommation pouvait faire partie de choses à faire, là, puis de rendre le quotidien plus plaisant. Donc, autant pour la consommation d'alcool que de cannabis, on a vu une hausse. Par contre, chez certaines personnes que leur consommation est très associée à des rassemblements au niveau social, pour eux, leur consommation a diminué. Fait que c'est sûr que si on regarde l'ensemble, on voit une augmentation, mais chez certaines personnes où la consommation était associée à, justement, tu sais, je pense aux jeunes qui vont consommer avec un groupe de pairs, ben eux, le fait de ne pas voir leurs amis, des fois, ça a fait que ça l'a baissé. Fait que je laisserai peut-être Marie-Ève un peu plus nous parler des chiffres globales.
Madame Levasseur?
Oui, Madame Darcy l'a bien expliqué, à chiffre à l'appui, là, ce qu'on a pu observer, puis en avril, on aura des données de l'enquête québécoise sur le cannabis de 2022, qui seront peut-être éclairantes pour l'évolution dans le temps. Mais le groupe des jeunes et jeunes adultes qui nous intéresse aujourd'hui, là, disons les 15-34 ans, c'est ceux qui sont effectivement plus nombreux en proportion qui ont indiqué qu'ils ont augmenté leur consommation en raison de la pandémie, comparativement, par exemple, à seulement 12% des 55 ans et plus. Qui ont dit avoir augmenté. Donc, ils semblent avoir plus augmenté que d'autres groupes d'âge. Par contre, c'est tout à fait vrai qu'ils sont aussi ceux qui ont dit qu'ils ont le plus diminué. T'sais, il y en a une partie d'entre eux qui ont plus diminué que d'autres groupes d'âge. Et si on se ramène dans le portrait global, ben, il y a quand même la plus grande majorité n'a pas modifié sa consommation en raison de la pandémie. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est effectivement, c'est est-ce que ces taux-là vont rester? Est-ce que ça va rester pour certaines personnes, est-ce que ce niveau-là rehaussé de consommation va perdurer maintenant que la pandémie est dans un autre cycle, disons, qu'il y a 2 ans? Il va falloir continuer de surveiller les données là, dans le futur pour pouvoir le savoir.
Oui, Mme Levasseur, est-ce qu'il y a des effets déjà perceptibles aussi de la légalisation du cannabis? Parce que là, ça va faire 5 ans en octobre prochain. Est-ce qu'on peut, malgré la pandémie, déjà voir si ça a eu un changement ou...
C'est ça. La pandémie est un bon facteur ayant un peu faussé ou en tout cas affecté les données, on s'en doute bien. Par contre, un peu comme je vous le mentionnais au début, on voit que pour ce qui est selon les groupes d'âge, la légalisation pourrait avoir eu certains impacts, mais pour les groupes d'âge plus âgés. Donc, 25 ans et plus, on voit cycle après cycle depuis 2018 une augmentation de la consommation dans ces groupes d'âge-là pour tous les groupes d'âge après 25 ans. Pour ce qui est des 18-24, on est plus dans la stabilité. On peut pas statistiquement observer de variation à suivre ça aussi. Puis pour les jeunes, mais aussi à poursuivre, comme je vous le disais, les jeunes, on est quand même dans une tendance à la diminution de la consommation pour les plus jeunes. Donc, ça va être à suivre. Mais pour les groupes plus âgés, on voit une augmentation de la consommation.
Et moi, je me rappelle, dans la légalisation, avant que ça se fasse, ça a été un peu comme le bug de l'an 2000. T'sais, les gens se sont vraiment énervés beaucoup, puis ils étaient super inquiets avant que ça se fasse. Puis finalement, quand ça s'est fait, on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas des gens intoxiqués partout, en tout temps. Mm-hmm. Je crois que ce qui a changé beaucoup, c'est la connaissance du consommateur. Donc, on a des consommateurs maintenant qui sont beaucoup plus sensibles à « je veux consommer un produit qui est légal parce que je ne veux pas qu'il y ait de métaux lourds, je ne veux pas qu'il y ait de pesticides, je ne veux pas qu'il y ait d'autres cochonneries dedans. Mm-hmm. » Les consommateurs, ils sont plus sensibles à « ah, je veux un cannabis avec du THC et du CBD. » Ou je veux juste du CBD, pas de THC, qui sont les deux ingrédients actifs. Ben, il y en a plus que deux, mais c'est les deux principaux. Donc, on a des consommateurs qui arrivent avec déjà une meilleure connaissance de ce qu'ils recherchent, puis de ce qui amène le moins de conséquences dans leur vie négative. Alors qu'avant, c'était comme un peu de rentrer à la SAQ. C'est comme si je rentrais à la SAQ, puis je buvais quelque chose, puis je savais pas si c'était du 5% d'alcool ou du 40%. Fallait comme que je boive pour le savoir. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on est plus dans une connaissance des consommateurs. Puis comme Mme Levasseur le disait, l'apparition d'un intérêt pour des nouveaux produits non fumés. Les comestibles sont en augmentation en popularité, les gouttes, les choses comme ça, parce que les gens, ils se rendent compte que de fumer, c'est pas bon pour les poumons. Puis toute la campagne de sensibilisation sur le fait que fumer du tabac, ben la combustion... c'est pas bon au niveau respiratoire, ben, les gens, tu sais, ont cette conscience-là, fait qu'ils vont aussi vers d'autres produits.
Plus santé, finalement.
Plus santé au niveau pulmonaire. Uh-huh. Par contre, c'est des produits qui prennent beaucoup plus de temps avant de faire effet. Donc, on parle pour les comestibles, ça peut prendre là, entre 45 minutes puis jusqu'à 2 heures avant de faire effet. Et une fois que l'effet embarque, il peut durer de 8 à 10 heures. Alors qu'au niveau fumé, c'est quelques secondes avant que l'effet se fasse sentir, puis l'effet dure 2 à 3 heures. Donc, c'est pas la même chose. Donc là, on a tout, c'est ça, un apprivoisement de ce nouveau mode de consommation-là. Oui, entre autres, je pense à la conduite automobile. Oui. On peut pas pour une soirée décider qu'on prend des comestibles puis on prend sa voiture après parce qu'on n'est pas en état de conduire.
Oui, c'est super intéressant pour les chercheurs qui travaillent parce que là, la législation fait que vous pouvez peut-être plus investiguer qu'avant.
Oui, ben il y a des nouvelles perspectives, en fait, qui nous permettent aussi que les résultats qu'on trouve dans les études qu'on fait, ben, on est capable de les généraliser puis de les expliquer à la population. Mais il faut savoir que quand on consomme une drogue, il y a toujours trois grandes catégories de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui viennent déterminer l'effet. Ce qu'on consomme, la personne qu'on est, puis des éléments en lien avec le contexte. Donc, si, par exemple, je consomme avec des gens louches dans un sous-sol puis je me sens pas bien, je risque pas d'avoir le même effet que si j'étais avec des amis dans un salon en écoutant Netflix. Donc, les trois grandes catégories de facteurs sont super importantes à considérer pour venir
raffiner,
ben, en fait, de déterminer l'effet qu'on va ressentir. Ce qui explique pourquoi, genre, une personne peut dire, mais moi, je consomme du cannabis puis ça me rend anxieux, j'aime pas ça. Une autre dit, oh, moi, ça me rend créatif. Il y a une partie individuelle. Il y a aussi une partie du produit comme tel. Puis c'est ça qu'on essaie de raffiner au niveau de la recherche, de voir c'est quoi dans la composante du produit qui peut affecter l'effet, soit de davantage avoir de somnolence, qu'est-ce qui peut amener peut-être un soulagement un peu plus grand au niveau de la douleur. Donc, on est en train d'étudier ça, mais c'est sûr qu'on ne peut pas soustraire la personne qui le consomme puis le contexte dans lequel elle consomme pour dire c'est sûr que si tu consommes tant de milligrammes de THC, ça va faire ça comme effet.
Oui, c'est pas juste le produit. Donc, Mme Levasseur, quelles sont les conséquences sanitaires liées à l'usage du cannabis?
Vous parlez des effets à court et plus long terme de la consommation.
Régulière et quotidienne aussi, là, quand on en consomme, parce que j'imagine quand on expérimente une fois, ben, on peut avoir de drôles de surprises, mais ça va être une fois, on n'est pas espéré que ça se passe bien. Mais si on en prend régulièrement, c'est quoi pour la santé ou quotidiennement, c'est quoi pour la santé?
Il y a plusieurs types de risques. Comme le disait Mme Darcy, c'est bien de le respecifier, là, qu'il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est juste une fois qu'on peut n'avoir aucun effet problématique. Par contre, c'est vrai que de remettre en perspective que la consommation régulière, fréquente et surtout quotidienne a le plus d'impact, c'est certain. On parle d'impact sur, bien sûr, l'apprentissage, la mémoire. Ça peut affecter l'humeur, l'anxiété, affecter la santé mentale aussi. On entend souvent parler du développement de psychose, etc. Mm-hmm. Donc, plus la consommation est fréquente, régulière et soutenue, plus ces risques-là sont possibles. Et puis, D'autres types de risques que les chercheurs ont pu mettre au jour au fil des dernières années. Par exemple, un risque plus important d'infarctus du myocarde chez des plus jeunes. Habituellement, c'est dans des populations plus âgées. Bien sûr, ça peut augmenter des symptômes respiratoires, des maladies, précipiter la survenue de certaines maladies respiratoires. Il y a toutes sortes de risques associés à la consommation beaucoup plus soutenue et fréquente. Puis les enjeux liés au développement de la dépendance. Puis plus ces risques-là vont être plus élevés, plus la consommation a été initiée tôt. Donc plus c'est tôt à l'adolescence ou dans la jeunesse, donc plus ces risques-là peuvent être encore plus soutenus. Si elle est soutenue, fréquente, se prolonge dans le temps, puis plus les produits sont forts en THC, tous ces risques-là peuvent être augmenter aussi.
Et j'aimerais ça ajouter que aussi chez les jeunes, plus la consommation régulière est initiée tôt, mais plus ces effets-là qu'on voit au niveau cognitif, au niveau des fonctions exécutives, donc comme Marie-Ève disait sur la mémoire, tout ça. Plus c'est commencé tôt, ben plus il y a un risque aussi que même si on arrête la consommation, ces déficits-là perdurent dans le temps. C'est sûr que c'est pas chez chaque personne, tout ça, faut quand même faire attention, mais ça augmente le risque. L'autre élément aussi que je voulais mentionner, c'est le risque de dépendance. Mm-hmm. Ce qu'on sait, c'est que quand la consommation est initiée plus tôt, le risque de dépendance, tu sais, au lieu d'être entre 9 et 12%, il va plus être autour de 14%. Donc ça, c'est des choses qu'on sait, mais en même temps, est-ce que des fois, on peut pas toujours savoir le sens de la relation, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce que j'ai vécu des difficultés dans ma vie que je suis plus prédisposée à consommer tôt et donc c'est ça qui fait en sorte que j'ai plus de risques de dépendance ou c'est le fait que j'ai consommé tôt qui a amené plus de risques de dépendance? Des fois, c'est pas toujours facile à départager.
La source. Pour terminer, très rapidement, comment on parle aux jeunes de tout ça, de dépendance, de consommation?
Mais je pense qu'il faut éviter d'être dans la banalisation ou dans la dramatisation. Puis ça, c'est pas facile d'être nuancé puis d'être entre les deux. Moi, c'est sûr que, tu sais, de faire peur, de donner des conséquences, tu sais, que le jeune... qui sont trop loin de lui ou tout ça, que ça lui parlera pas. Donc, c'est important d'avoir une approche vraiment très centrée sur qu'est-ce qu'il vit actuellement, c'est quoi les risques immédiats de la consommation, puis d'être plus proche de ses préoccupations, puis d'ouvrir le dialogue, les amener à réfléchir, au lieu de leur dire quoi faire, quoi penser, les amener à se poser des questions. Tu sais, par exemple, tu veux aller consommer avec tes amis, c'est quoi les risques, t'sais? Qu'est-ce qui pourrait se passer si, mettons, qu'est-ce que vous allez faire s'il y en a un qui se sent pas bien?
Donc, pour avoir une solution,
pour
finalement.
Avoir des qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement vous assurer que vous ne vous ramassez pas à, mettons, vivre une mauvaise expérience. Entre autres, on essaie d'éviter les jeux de consommation, les concours, là, de retenir la fumée le plus longtemps dans ses poumons, c'est vraiment pas bon. De fumer la plus grande quantité dans le moins de temps possible. C'est le genre de choses que, on veut éviter, puis d'être à l'écoute de ses limites. Fait que d'aider le jeune à être à l'écoute de ses limites puis de développer son jugement critique, je pense que c'est ça qui est le plus efficace.
Oui, merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, on était en compagnie de Laurence Darcy, chargée de projet, spécialiste en dépendance à l'Institut universitaire sur les dépendances et chargée de cours à l'Université de Montréal. On mettra le lien. Et de la conseillère scientifique Marie-Ève Levasseur, coordinatrice de l'équipe scientifique sur le cannabis à l'unité produits et substances psychoactives de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
N'oubliez pas, si vous avez un problème de consommation ou de dépendance, il y a un numéro à appeler, le 514-385-1232. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Vous pouvez écouter de nouveau l'émission cette semaine en rediffusion et aussi sur la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.